ajouter dans l'immédiat, je vous propose de tendre le micro à Sébastien Larocque, parce qu'on va passer d'une douceur à une autre douceur, puisqu'on a, vous avez tous pu apprécier, j'espère, les pruneaux enrobés de chocolat et autres délicatesses qui viennent de votre établissement, de chez Roucadil. Là, nous sommes donc dans l'univers du pruneau. Hier soir, nous avons eu l'occasion également de déguster vos chocolats d'une finesse assez remarquable. Donc, il y a tout un parcours. J'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez fait ce chemin-là, quoi, parce que c'est un peu bluffant quand même.
Bonjour. Sébastien Larocque, donc je suis producteur de pruneaux d'Agen à Saint-Vite, en Lot-et-Garonne. Voilà. Donc nous sommes une entreprise familiale, donc mon épouse est aujourd'hui là aussi. Et donc on a repris l'entreprise familiale il y a une vingtaine d'années. Et effectivement, tout de suite, l'idée sur ce marché du pruneau, qui était un marché de prix bas et qui était un marché paupérisé, se dire effectivement comment on réussit à se démarquer sur un marché avec des produits, j'allais dire, de qualité, puisque déjà la maison Roucadil était sur la qualité, et comment faire pour pouvoir non seulement le dire, mais voilà, et amener aussi les producteurs avec nous sur ce qualitatif là, quoi. Voilà, donc petit à petit, on a réussi à bâtir notre histoire sur la production, en mettant en place des cahiers des charges avec nos producteurs pour les inciter à ramasser notamment les prunes à maturité pour obtenir un bon pruneau, en mettant en place des cahiers des charges et des rémunérations derrière pour que eux ils soient incités justement à faire cette qualité là et ensuite, en continuant derrière, en l'expliquant à nos clients, distributeurs et aussi aux consommateurs, à travers notamment, on avait monté un concept, ça s'appelle le pruneau mi-cuit de la Saint-Luc, c'est-à-dire que à la Saint-Luc, c'est tous les ans le 18 octobre où les palombes traversent le sud-ouest de la France et elles amènent les nouvelles récoltes. Voilà, les nouvelles récoltes, voilà. Et, mais donc les nouvelles récoltes.
C'est-à-dire que le pruneau se récolte à la mi-octobre.
Voilà, en fait,
la prune dente.
Elle se récolte bien avant, puisque c'est fin août, début septembre, mais c'est à la mi-octobre où dans les cabanes, dans les villages, les gens ils consommaient les nouvelles récoltes, que ce soit de noix, de noisettes, des nouveaux fromages et ainsi de suite. Voilà, donc on a repris cette tradition-là et on l'a mis au goût du jour à travers des animations dans les magasins, à travers des dégustations, que ce soit en France ou même on a réussi à aller un peu à l'étranger avec ce concept-là, et ça nous permet aussi d'amener de nouveaux producteurs, parce qu'en fait on leur demande un cahier des charges bien précis sur un pruneau qui est non réhydraté, c'est-à-dire le pruneau mi-cuit.
C'est quoi, quand vous parlez de qualité, bon, j'ai envie de dire tout le monde fait de la qualité, on peut faire un produit premier prix de bonne qualité, c'est-à-dire conforme à ce qu'on en attend, de même qu'on peut faire un produit haut de gamme de bonne qualité parce qu'il est conforme à ce qu'on en attend. Mais on parle de choses différentes. Ça peut être vrai dans les fruits comme en automobile ou dans toute autre catégorie. De quoi parlez-vous et qu'est-ce que... Bon, je comprends que vous voulez parler d'un produit plutôt de haut de gamme. De quoi s'agit-il pour le consommateur, comment lui peut le reconnaître?
En fait, c'est comme on disait hier soir, c'est comme dans le vin, le pruneau, quoi. C'est-à-dire que le consommateur de pruneau, c'est quelqu'un qui sait faire la différence entre un bon pruneau et un pruneau, voilà.
Un très bon pruneau.
Et voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette perception du consommateur-là, à travers la marque Maison Roucadil, on a réussi justement à proposer aux consommateurs un produit différenciant grâce aussi au travail des producteurs. Bon, c'est vrai que moi, en tant que producteur, pour faire ce fameux pruneau mi-cuit, on avait du mal à le mettre au point. Une fois qu'on a réussi à le mettre au point, on a amené les producteurs avec nous, quoi, derrière. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a permis de pouvoir vraiment prouver aux consommateurs que c'était un produit différent. Maintenant, avec nos moyens, c'est-à-dire, bon, une PME d'une cinquantaine de personnes, voilà, c'est pas... Mais c'est vrai que ça permet de lancer la campagne de pruneau, et derrière, effectivement, ça permet d'avoir le pruneau conventionnel, j'allais dire, réhydraté, qui permet justement d'aller chercher de nouveaux consommateurs qui n'allaient pas vers ce produit-là, quoi. Voilà.
Quels sont vos circuits de commercialisation? C'est les mêmes que ceux de vos méga concurrents ou vous êtes plutôt sur des circuits un peu différenciants également?
Les circuits, ben nous.
Vous êtes, allez, pour faire simple, c'est du GMS majoritaire ou bien c'est des circuits spécialisés avec des détaillants, avec des confiseries, enfin des que sais-je encore.
Non, mais nos circuits, il y a pas de secret, mais c'est vrai qu'on est nous on s'est, au départ déjà on s'est interdit rien quoi, c'est-à-dire que chez Roucadil, que ce soit, on a des boutiques de vente pour en propre.
Oui.
Voilà, donc
vous avez 8, hein, c'est ça. Hein.
Voilà. Dans le sud-ouest de la France, sur la région parisienne, mais que ce soit une personne qui vient pour acheter, comment on dit, la mamie qui vient acheter le pruneau enrobé de chocolat tel que vous avez pu le déguster au café tout à l'heure grâce à Claude Dominger aussi, mais ou que ce soit l'acheteur de Centrale Internationale ou le Chinois qui vient nous acheter les pruneaux, c'est la même attention pour nous parce que c'est le produit, c'est le pruneau d'Agen qui est tracé, qui est certifié, qui est sans conservateur, sur lequel on a travaillé. Là on travaille sur les zéro résidus sur nos gammes de produits.
Vous êtes dans le collectif Nouveau Champ dont
on est dans le collectif
matin.
Nouveau Champ, bien sûr, parce que quand j'ai vu le travail de Bertrand Diaz tout de suite, j'y suis allé tout de suite parce que je me suis dit un travail comme ça c'est quelque chose qui mérite qui est plusieurs voilà, que derrière ça fasse boule de neige quoi.
Vous avez le sentiment qu'effectivement ça fait écho chez vos clients, même sur un produit, parce que le produit, la promesse zéro résidu de pesticides est particulièrement parlante sur un produit frais non transformé. Sur un produit qui est légèrement transformé, comme le pruneau, ça parle également.
Ça parle de la même manière. Il y a deux raisons pour lesquelles j'étais parti, puisque on parle de ce sujet. J'étais au fin fond de l'Espagne et j'étais, je sais pas, chez un Socomo, je sais pas où j'étais, chez Carrefour. Et eux, déjà, ils étaient prêts avec des centaines de milliers de tonnes d'agrumes sans résidus de pesticides. Alors, le Français qui va en Espagne et l'Espagnol qui lui explique que lui, il sait faire du zéro résidu de pesticides, alors que nous, avec tous les cahiers des charges qu'on s'impose et tous les contrôles derrière, je peux vous dire, vous revenez, vous vous dites, mais il faut qu'on se bouge à un moment donné, les Français, quoi. Il faut vraiment qu'on soit capable de dire ce qu'on fait, quoi. Il faut que les gens, ils soient... il faut qu'à un moment donné, l'agriculture française, oui, aller faire les circuits courts, ils se font plaisir, c'est bien, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça.
C'est compliqué techniquement de faire du zéro résidu en prime dente.
C'est compliqué.
Est-ce que vous mettez en danger quelque part dans le parcours technique?
Oui, bien sûr, parce que parmi des producteurs qui soient, si vous prenez par exemple 10 personnes qui veulent le faire, à la fin il y en aura un ou deux qui sera
effectivement
qui sera sorti. Et derrière avec des analyses qui sont quand même poussées, qui coûtent cher, quoi. Hein. C'est pas juste le coup de tampon, quoi. Non, c'est pas ça.
Ça va se valoriser, ça. Commercialement, je le devine, mais même en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire, bon, parce qu'on se cherche, on commence à se trouver un petit peu, mais vous êtes entre un produit conventionnel, je dirais classique, et un produit bio, si je peux me permettre, puisqu'on est aujourd'hui sur cette dualité. Et là, vous positionnez quelque part entre les deux. Est-ce que sur le marché du pruneau, vous avez des coûts d'analyse, vous avez des prises de risque, enfin il y a un certain nombre de choses qui font que logiquement ça devrait être créateur de valeur et pas seulement commercial.
Ben, c'est toujours pareil, c'est comment on compte. Est-ce qu'on va compter les 10 producteurs qui se sont investis et qui n'auront pas eu la certification? Où on compte le producteur ou les deux producteurs qui c'est un peu
qui réussissent.
L'industriel, de toute façon, il aura payé les analyses et tout ça, mais les producteurs derrière, eux, ils se seront battus pour avoir leur certification, ils l'auront pas eu. Donc qu'est-ce qu'on leur donne à eux? C'est tout ça. Alors le consommateur,
on se questionne sur la valeur aujourd'hui. Non, mais donc votre question, elle est.
Moi, le consommateur, la première raison, c'était ça, pour les zéro résidus. Et la deuxième raison, la première raison, c'était quand j'étais en Espagne, que je voyais les Espagnols qui nous expliquaient qu'ils savaient mieux faire que nous. Et la deuxième, c'était dans la boutique où les gens, ils voulaient pas acheter du pruneau parce que c'était traité, quoi. Voilà. Non, je ne vais pas acheter votre pruneau, il est traité, quoi. Il y a eu des traitements dessus. Et quand vous entendez ça, vous dites, mais c'est pas possible, C'est la production du pruneau d'Agen raisonné depuis 30 ans. Il y a eu ça a été donc il y a le bureau international du pruneau qui suit justement les producteurs pour descendre les IFT. Avant il y avait une vingtaine, 20-25 traitements. Là on est descendu à 5-6 traitements annuels avec des produits qui ont été justement tous les produits qui ont été modifiés avec des produits beaucoup plus respectueux de l'environnement et compagnie. Donc il y a vraiment une baisse des résidus qui a été faite de manière drastique. Derrière il y a l'IGP du pruneau qui contrôle tous les ans s'il y a aussi des résidus, et donc tous les lots qui sont aussi sortis j'entends sur les molécules dangereuses, hein, d'accord, on n'est pas sur le zéro résidu là, mais c'est vrai que tout ce travail là il est fait au quotidien par les agriculteurs, mais derrière le consommateur il le perçoit pas. La valeur du produit elle est... Voilà, c'est toute une remise en cause, quoi.
Parce que ce matin, dans les propos introductifs, on évoquait la question des signes officiels de qualité et effectivement le fait que la tendance était au développement de d'autres angles, comme celui que vous avez évoqué, zéro résidu de pesticides. Mais vous êtes quand même sur un terroir qui est reconnu, qui fait l'objet de signes officiels de qualité.
Voilà, alors le terroir, oui, donc c'est l'IGP pruneau d'Agen. Donc effectivement, ça fait 20 ans que pruneau d'Agen est sous IGP, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement ça suffit plus, quoi. Voilà, donc c'est, aujourd'hui ça suffit plus.
L'IGP en tant que tel, elle vous apportait quelque chose pendant un temps quand même?
Oui, moi c'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé dans le pruneau, effectivement, puisque les transformateurs ils voulaient pas effectivement de l'IGP, puisque effectivement il y avait peut-être des mélanges à l'époque et tout, mais ce temps-là est résolu. Moi tout de suite j'ai dit oui, il faut qu'on aille sur l'IGP. Mais aujourd'hui, le consommateur, il veut aussi un goût, il veut aussi une traçabilité. Voilà, donc pour moi, le label rouge, c'est ce qui est le plus reconnu par le consommateur. Et donc là, on travaille aujourd'hui sur le label rouge pour justement aller vraiment donner au consommateur une assurance supplémentaire, quoi, sur un produit qui est le pruneau d'Agen. C'est quand même une marque de producteur, quoi. Hein, c'est pas...
Je surveille l'heure pour vous mettre une petite question. C'est le chocolat.
Ah, le chocolat.
Pourquoi le chocolat dans cette logique de création de valeur, c'est quoi? C'est juste...
Vous voulez la boutade du fondateur de Roucadil, Monsieur Roudil, qui était un inventeur de génie, puisque il a arrêté l'école à 12 ans parce qu'il était sourd, et malgré tout, il a eu une vingtaine de brevets à son actif, où il a inventé les étuves pour sécher la prune, et il a vendu ensuite pour sécher la vanille à Madagascar, pour sécher les plantes médicinales dans le monde entier. Et lui disait que le chocolat, puisque c'est lui qui a inventé le pruneau chocolat, il disait que d'un côté le pruneau, avec son effet qu'on connaît, et que le chocolat rééquilibrait la chose.
Voilà. En fait, c'est une histoire de diététique, quoi. C'est presque un alicament.
Voilà, exactement. Exactement. Exactement.
Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais soyons un peu sérieux, s'il vous plaît.
Voilà, donc le pruneau rêve de chocolat, il marche pas, ça suffit pas. Le pruneau chocolat, ben effectivement, oui, c'est un mariage du pruneau et du chocolat. Derrière, on fait les noix du Périgord au chocolat, et puis on est.
Vous êtes arrivé au chocolat fin, sans pruneau ni noix. Non.
Sans pruneau ni noix, aujourd'hui on est sur des mariages avec du Team Sud, le fameux poivre. On travaille aussi au yuzu, on travaille avec des mélanges avec du gingembre, on travaille avec sur des chocolats fins. Mais c'est vrai que c'est là on est. Voilà, je suis producteur.
Justement, là vous allez encore plus loin. Vous n'êtes pas de cacaoyer quand même.
J'ai failli rentrer à Purpan, ils m'ont pas voulu. Donc je suis allé faire du commerce. Voilà. Donc en attendant, j'allais faire du commerce.
Ils ont peut-être bien fait, finalement.
J'étais trop discipliné, voilà. Et c'est vrai qu'on m'a appris dans le commerce qu'il fallait toujours segmenter, c'est-à-dire qu'il fallait jamais rester sur le produit de base, il fallait toujours trouver des possibilités de proposer, voilà. Une des dernières segmentations, c'est le pruneau en pot vert, là, effectivement, parce que le pruneau en pot vert, c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est l'histoire de la bouteille de la villageoise, le vin, qui était en bouteille plastique. La villageoise, du jour au lendemain, ils sont passés de la bouteille plastique à la bouteille vert. Et c'était plus du tout le même vin qui était dans la bouteille. Ça a tout changé. Et nous, on est parti sur le pruneau en pot vert, et on va voir ce que ça va donner, quoi. Je sais pas. On essaye.
Très bien, merci. L'histoire continue, donc. Bravo.
Merci.
Bravo.